tous les livres du monde, la Bible seule donne par anticipation une définition des principaux événements qui se sont déroulés dans le monde au cours d'une période de plus de 2500 ans. Nous trouvons certaines définitions dans les prophéties de Daniel que nous allons examiner maintenant. Cette série de programmes d'études de la Bible vous est présentée par l'Association des étudiants de la Bible Aurore, qui publie la revue Aurore.
Merci Thomas. Le livre de Daniel est l'un des plus intéressants de l'Ancien Testament, n'est-ce pas ton avis?
Pierre, toutes les parties de la Bible m'intéressent, surtout quand nous considérons l'harmonie avec laquelle tous les écrivains parlent du grand plan de Dieu pour le rétablissement de la race humaine dans sa demeure édénique perdue.
C'est vrai, Thomas. Et certainement, les prophéties de Daniel contribuent pour une bonne part à nous éclairer au sujet de l'accomplissement du plan divin, et sur la façon dont les ennemis seront enfin écartés par l'autorité du royaume de Dieu, qui sera un glorieux triomphe du bien sur le mal.
Pierre, ne parle-t-on pas quelquefois de Daniel comme étant l'un des grands prophètes?
Oui, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel en sont aussi, simplement parce que leurs écrits sont plus longs que ceux des petits prophètes.
Si je me souviens bien, Daniel était l'un des Hébreux emmenés en captivité à Babylone par Nebuchadnezzar, lorsque Sédécias, le dernier roi de la nation hébraïque, fut renversé en 606 avant Jésus-Christ.
C'est juste. Comme nous l'avons vu dans notre étude précédente des prophéties, cette calamité qui accabla Israël avait été prédite, et maintenant il subissait l'exil. Daniel, cependant, gagna la faveur du roi de Babylone et occupa une place très élevée dans le royaume. Il était pour ainsi dire le premier ministre de l'Empire.
Et grâce à la providence divine, naturellement. Mais Pierre, la prophétie de Daniel fait entrevoir des événements du monde par anticipation pour une longue période, n'est-ce pas?
Oui, la première prophétie de Daniel se trouve dans le second chapitre de son livre. Elle est basée sur le songe de Nebuchadnezzar, dont Daniel donne l'explication au roi après lui en avoir rappelé le thème.
S'agit-il du songe où le roi vit une statue à forme humaine dont la tête était d'or?
Oui, et la poitrine et les bras étaient d'argent. Ses cuisses étaient d'airain et ses jambes de fer. Ses pieds et ses orteils étaient un mélange de fer et d'argile.
Et si je me souviens bien, dans ce songe, le roi vit une pierre se détachant de la montagne sans l'intervention d'aucune main humaine. Cette pierre frappa la statue au pied et la renversa. Alors la pierre devint une grande montagne qui remplit toute la terre. Ce fut certes un songe remarquable. Mais Pierre, quelle en est la signification?
Daniel expliqua au roi que la tête d'or le représentait, et que l'argent, l'airain et le fer de la statue représentaient les royaumes qui exerceraient le pouvoir. Il précisa que Nebuchadnezzar était le premier de ces royaumes. « Tuez cette tête en or, » dit-il au roi. Et Daniel précisa que trois autres puissances suivraient sur la scène du monde. Historiquement, ce furent les Mèdes et les Perses, les Grecs et l'Empire romain.
Et les pieds et les orteils de la statue composés d'un mélange de fer et d'argile.
Daniel expliqua que l'argile, mêlée au fer, indiquait des influences débilitantes qui amèneraient l'Empire de fer de Rome à devenir fragile et à se désintégrer. Ceci, naturellement, arriva. Et l'Empire fut divisé entre les différents États de l'Europe, comme le représentaient les 10 orteils de la statue.
Voici vraiment une image assez fidèle des événements que l'histoire nous fait connaître. Mais que dire de la pierre qui frappa la statue, puis devint une grande montagne qui remplit toute la terre?
Daniel expliqua que cette pierre représentait le royaume de Dieu. Le fait que cette montagne remplit toute la terre indique l'universalité du royaume de Dieu, qui sera instauré après le renversement des gouvernements des gentils, comme nous l'avons vu pour la statue de Nebuchadnezzar.
Pierre, est-ce la même montagne que celle dont parle la prophétie d'Ésaïe, où il dit que dans les derniers jours, la montagne de la maison de l'Éternel sera établie au sommet des montagnes?
C'est cela. Les prophéties de l'Ancien Testament font souvent allusion au royaume du Seigneur comme de la montagne de l'Éternel.
Eh bien, les diverses prophéties présentent bien un témoignage unanime. Le prophète Daniel indique-t-il quand cette montagne de l'Éternel deviendra une réalité sur la terre?
Oui, dans le 44e verset de ce chapitre, il explique que ce serait au temps de ses rois.
Quels rois?
Les rois représentés par les 10 orteils de la statue de Nebuchadnezzar, qui sont les divers royaumes sortis de l'Empire romain divisé.
Alors Pierre, ce sont ces royaumes ou états de l'Europe qui commencèrent à s'effriter lorsqu'éclata la Première Guerre mondiale en 1914.
Tu vois Thomas, cela veut dire que les événements de notre siècle, qui ébranlèrent le monde, sont en rapport direct avec l'établissement du royaume du Seigneur sur la terre.
Ce qui veut dire que nous vivons une période très importante de l'histoire du monde.
Tu restes au-dessous de la vérité. Par le fait, nous vivons à l'époque où le Dieu du ciel, le grand créateur de l'univers et de l'homme, écarte les gouvernements humains pour introduire son royaume promis depuis longtemps.
C'est merveilleux, Pierre. Si les gens pouvaient seulement s'en rendre compte, quels différents points de vue ils auraient de la vie. Mais dis-moi, que veut dire le fait que la pierre qui est devenue une grande montagne remplissant toute la terre ait été détachée sans le secours d'aucune main ?
Pour moi, Thomas, cela certifie que le royaume du Seigneur est entièrement préparé par lui-même. Il ne dépend pas des hommes, n'est pas sous le contrôle de la politique de ce monde. Au sujet de l'établissement et du gouvernement de ce royaume, le prophète Ésaïe écrivit « Le zèle du Seigneur des armées l'accomplira ».
Ceci devrait donner confiance en un triomphe final du bien sur la terre. Pierre, si je me souviens bien, Daniel lui-même eut aussi un songe merveilleux, n'est-ce pas ?
Oui, ce fut après que Babylone eut été renversée par les Mèdes. Dans son rêve, Daniel vit quatre grandes bêtes. L'une était comme un lion, l'autre comme un ours, une autre comme un léopard. La quatrième est décrite par Daniel simplement comme une bête terrible.
Que représentaient ces quatre bêtes ?
Daniel explique qu'elles représentaient quatre royaumes ou empires.
Pierre, cela n'est pas difficile à comprendre, car à travers les siècles, les hommes ont comparé leurs royaumes et leurs empires à des bêtes. En fait, nous avons encore aujourd'hui le lion britannique, l'ours russe, le dragon chinois et d'autres.
C'est vrai, ce qui indique que le langage de la Bible n'est pas aussi difficile à comprendre que nous pourrions quelquefois le supposer.
Quels sont les quatre royaumes ou empires représentés par les quatre bêtes que Daniel vit dans son rêve ?
Nous avons raison de croire que ce sont les mêmes que ceux prévus dans l'image de Nebuchadnezzar, vit dans son songe.
En d'autres termes, Babylone, le royaume des Mèdes et des Perses, la Grèce et Rome.
C'est juste. Nebuchadnezzar vit ses royaumes au point de vue humain. Il voyait les royaumes de ce monde dans leur éclat d'or, d'argent, d'airain et de fer. Daniel, cependant, les voyait du point de vue de Dieu, sous forme de bêtes féroces et répulsives.
Pierre, dans son songe, Daniel vit-il aussi ses royaumes semblables à des bêtes ?
Oui, et par le royaume de Dieu, le même que Nebuchadnezzar vit sa statue rayonnante détruite par la pierre qui représentait le royaume du Seigneur.
La quatrième bête de la prophétie de Daniel serait par conséquent l'Empire romain, est-ce cela ?
Oui, naturellement, l'Empire romain eut des attributs changeants au cours de son existence, et ces attributs seront représentés par les diverses cornes et têtes de la grande et terrible bête de Daniel. Mais à la fin, de même que dans le rêve de Nebuchadnezzar, Daniel voit l'établissement du royaume du Seigneur. Thomas, je crois qu'il serait bon de lire cette partie de la prophétie de Daniel. Elle nous aidera à comprendre et à apprécier la façon merveilleuse dont le thème du royaume domine dans les différents livres de la Bible. Je crois que c'est au chapitre 7, versets 26 et 27.
Merci, Pierre. La prophétie dit « Puis viendra le jugement ». Et on lui ôtera sa domination.
L'expression « sa domination » fait allusion à la puissance de la grande et terrible bête.
Merci Pierre, je recommence. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination pour la détruire et l'anéantir pour jamais. Et le règne et la domination et la grandeur des royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel. Et toutes les puissances le serviront et lui obéiront.
Tu remarques, Thomas, que cette promesse du royaume du Seigneur marque qu'il dominera sous tous les cieux, ce qui correspond à la pensée symbolisée par la montagne, c'est-à-dire le royaume qui doit remplir toute la terre.
Et naturellement, cela concorde avec toutes les autres promesses du royaume que nous avons trouvées dans les premiers livres de la Bible. Dieu promit par exemple à Abraham que par sa semence, toutes les familles de la terre devait être béni. Mais Pierre, quels sont les saints auxquels notre texte fait allusion, les saints du souverain qui possède ce royaume ?
Tu viens d'y faire allusion, Thomas. C'est la semence promise à Abraham par qui toutes les familles de la terre seraient bénies. Le grand Messie de la promesse est le plus important, naturellement. C'est le roi des rois et le seigneur des seigneurs.
Et le fait que le royaume du Seigneur doit succéder à l'ancien empire romain indiquerait qu'il est très près de nous. N'est-ce pas ton avis, Pierre ?
Oui, Thomas. Et ce fait nous sera présenté encore avec plus de force dans l'étude de la semaine prochaine, lorsque nous examinerons la prophétie de Daniel relative au temps de la fin. Et maintenant, veux-tu, je te prie, parler à nos amis de la revue Aurore ? Le royaume de Dieu est victorieux.
Certainement, Pierre, avec plaisir. Mes amis, le royaume de Dieu est victorieux est le troisième des articles de la série « Le livre des livres ». Il passe en revue les prophéties de l'Ancien Testament, celles de Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas. Il y a une riche information au sujet des plans et des desseins de Dieu, et particulièrement au sujet de la triste période par laquelle passe le monde. Les conditions du monde, qui mettent en échec les esprits les plus éclairés de notre temps, sont prédits et exprimés dans les prophéties, de plusieurs façons. On nous pose souvent la question, pourquoi Dieu ne fait-il rien pour soulager les souffrances humaines ? Le royaume de Dieu est victorieux, montre qu'il est sur le point de faire quelque chose de plus merveilleux que ce que l'esprit humain peut pleinement comprendre. Demandez tout de suite un exemplaire gratuit.
Demandez le petit livre « Royaume ». Demandez simplement « Royaume ». Ce petit livre vous sera envoyé gratuitement et franco de port. Cette étude de la Bible vous a été présentée par l'Association des étudiants de la Bible Aurore qui publie la revue Aurore, en coopération avec les groupes d'études de la Bible et leurs amis de partout. Nous serons avec vous de nouveau la semaine prochaine. Dites-le à vos amis et que Dieu vous bénisse tous.